Les mondes africains. Mais comment faire l'histoire de l'Afrique ?
Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'abolition de l'esclavage invoquée pour justifier la colonisation par Bismarck à la conférence de Berlin de 1885 sur laquelle on reviendra. Esclavage, colonisation, des verrous, et puis il y en a d'autres. Comment faire l'histoire de l'Afrique ? Eh ben, il faut se faire accompagner par François-Xavier Fauvel, comme depuis le début de la semaine. Bonjour.
Bonjour.
Une nouvelle chaire au Collège de France. L'a-t-on dit déjà depuis le début de la semaine ?
Oui. Oui, oui, oui.
Une leçon inaugurale, l'a-t-on dit depuis le début de la semaine ? Oui. Cette leçon inaugurale, d'ailleurs, on peut l'écouter sur le site du Collège de France, comme on peut écouter vos émissions sur le site de France Inter.
Absolument.
Vous allez réunir votre bibliothèque avec d'autres, votre bibliothèque personnelle.
En effet, voilà, j'ai l'intention de réunir mes différentes bibliothèques, celle chez moi et celle à Toulouse, dans mon bureau toulousain, de les réunir à Paris, au Collège de France, et de constituer l'embryon d'une nouvelle bibliothèque d'histoire et d'archéologie africaine à Paris.
Et puis de constituer autour de vous un collectif. Parce que souvent, on dit de François-Xavier Fauvel, il aime bien les collectifs, surtout s'il est le patron.
Oui, mais ça, ce sont des critiques plus ou moins amicales. Mais disons, j'aime bien effectivement les collectifs, c'est tout à fait vrai. Et j'ai fait beaucoup de livres collectifs. Parce que l'histoire de l'Afrique, c'est nécessairement un travail collectif, pluridisciplinaire, cosmopolite, qui fait appel à des compétences qui ne se trouvent pas forcément dans le bureau d'à côté, mais qui peuvent se trouver dans d'autres pays. Ça fait appel à des compétences qui peuvent être archéologiques, techniques, etc., qui peuvent être linguistiques, qui sont liées à des apprentissages qui souvent peuvent être très très longs. Et puis, rappelons-le, l'histoire de l'Afrique, ça n'est pas qu'une seule histoire, ce sont des histoires, ancrées dans des réalités nationales, dans des réalités régionales africaines très très différentes, qui font appel là à des langues classiques différentes ou à des conditions de la recherche très différentes.
Premier verrou, 1000 ans d'esclavage, on peut dire que la quasi-totalité de l'Afrique a été touchée ?
En tout cas, de très très larges parties d'Afrique ont été touchées dans deux phases différentes, qui sont dans deux chronologies différentes, dans deux géographies différentes. D'une part, la traite qu'on appelle islamique, qui commence aux alentours du 7e siècle et puis qui continue jusqu'au 19e siècle, qui là est dans une géographie qui concerne toutes les régions du Sahel, les régions de la Corne, la vallée du Nil, la région de la Corne de l'Afrique, toute l'Afrique orientale également, qui avec là des flux d'esclaves qui partent vers le monde islamique et puis qui de là sont redistribués vers le monde méditerranéen, y compris l'Europe, vers l'Inde et jusque en Chine. Et puis une deuxième traite qui commence au 15e siècle, la traite européenne, qui très vite devient une traite atlantique des esclaves, dans une autre géographie qui concerne cette fois-ci principalement la façade maritime atlantique de l'Afrique, mais également la façade indo-océanique, avec des esclaves qui cette fois-ci achetés par des puissances européennes et qui cette fois-ci traversent l'Atlantique pour aller dans les colonies américaines et en particulier aux Antilles.
Là-bas, si j'y suis, c'était une émission de 1997 avec Gilles Anctil sur la côte de Guinée à Ouida, dans l'actuel Bénin. Ouida, c'est un de ces forts échelonnés le long de la côte et qui enferme, avant de les redistribuer, les esclaves.
Alors ça, c'est l'arbre de l'oubli.
Oui, c'est... Il y avait un arbre à cet emplacement et c'est autour de cet arbre que les esclaves doivent tourner pour oublier les événements de leur pays. Les hommes vont tourner 9 fois. Les femmes 7 fois. Chez nous, le chiffre 9 est réservé aux hommes et le chiffre 7 est réservé aux femmes. On dit que les hommes ont 9 côtes et les femmes ont 7 et que chacun aura tourné autour de cet arbre compte tenu du nombre de ses côtes afin d'oublier les événements de leur pays.
Alors là, en fait, tout ce chemin depuis l'arbre aux enchères, il y avait la maison là-bas des esclaves, dans le fort, ensuite l'arbre aux enchères.
Oui. Hein, de la vos enchères, on vient ici.
Ah, oui. En ce lieu se trouvait l'arbre de l'oubli. Les esclaves mâles devaient tourner. Ah, les esclaves mâles, c'est un peu malheureux comme expression, ça fait un peu animal ça. Devaient tourner autour de lui 9 fois, les femmes 7 fois. Ces tours étant accomplis, les esclaves étaient censés devenir amnésiques. Ah, ils oubliaient complètement leur passé, leurs origines et leur identité culturelle pour devenir des êtres sans aucune volonté de réagir ou de se rebeller.
Mais qui est à l'origine de cette idée de tourner, de ce cérémonial de l'arbre?
C'était la négrier. Eux-mêmes. Ah, c'était les négriers eux-mêmes qui avaient initié cette méthode. La méthode de l'oubli et de l'amnésie.
Oui, oui.
Évidemment, ça n'a pas marché.
Mais puisqu'il faut lutter contre l'amnésie, il faut donc distinguer la traite islamique, vous en avez parlé, de la traite atlantique à laquelle participent les Européens, et dans celle-ci, distinguer des phases, parce qu'il y a eu une phase de forte intensité à partir du milieu du XVIIIe siècle, la traite était plus modeste auparavant.
Là, oui, alors la traite pratiquée par les puissances négrières européennes, il faut le dire, est très très bien documentée, parce qu'on a toutes les archives, qui sont aussi bien les livres de bord des navires que les registres de compagnies d'assurance. Donc c'est une traite qu'on peut documenter. On peut d'ailleurs trouver sur Internet le recensement total qu'on peut interroger de différentes façons, par navire ou par date ou par port, etc., etc. C'est très très connu. On peut chiffrer par période. Et en effet, le XVIIIe siècle, c'est véritablement le moment de pic de la traite, avec ensuite une phase de déclin dans le siècle, au XIXe siècle, qui est le siècle des différentes abolitions par les différents pays, soit européens, soit américains. Et puis la poursuite, néanmoins, d'une traite illégale, d'une traite clandestine, qui continue à concerner des centaines de milliers de personnes. Voilà. Le fort de Ouida, en particulier, dont il vient d'être question. Alors, il y a un fort portugais qu'on peut visiter, mais il y avait 4 autres forts européens à côté, hein. Un fort danois, un fort français, un fort anglais. Et dans chacun de ces forts, qui étaient eux-mêmes des terminaisons de routes négrières qui arrivaient de l'intérieur, étaient effectivement stockés les esclaves avant d'être embarqués sur les navires négriers qui les emportaient. Et à Ouida, on a jusqu'en 1860 une traite. Voilà, donc c'est même de Ouida que part l'un des tout derniers navires négriers illégaux, voilà, qui emporte encore des esclaves en Amérique, en l'occurrence au Brésil.
L'abolition a lieu, il faut reconversion pour chefferies et royaumes africains. Alors reconversion vers la production de produits d'exportation, mais reconversion peut-être aussi en utilisant encore le système de l'esclavage dans des traites internes.
Alors, en effet, parce que l'histoire de la traite atlantique, tant du fait de la documentation elle-même, qui est une documentation principalement européenne, tend à mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'agentivité, voilà, des Européens. Et il faut effectivement remettre l'accent sur l'agentivité des sociétés africaines, et en particulier se poser cette question de comment réagissent les économies africaines après l'abolition de la traite. Et de fait, on est bien obligé de constater que c'est un défi pour les sociétés africaines, en particulier pour les formations politiques les plus puissantes, qui ne peuvent plus exporter d'esclaves, dont les revenus du coup sont baissent, et sont obligés de trouver d'autres économies de reconversion, de rente en particulier.
Voilà, certains restent esclavagistes. Dans l'atlas que vous avez publié chez Autrement avec Isabelle Serin, il y a plusieurs cartes qui concernent les États esclavagistes. Alors Zanzibar et sa zone d'influence maritime, Sokoto, beaucoup plus au nord, du côté du golfe de Guinée, justement, c'est une économie servile. Oui, jusqu'au début du XXe siècle.
En effet, beaucoup de sociétés africaines restent très durablement marquées par ces siècles de traite esclavagiste et continuent pendant des décennies, pendant une grande partie du XIXe siècle pour beaucoup, continuent à exploiter une main d'œuvre servile, même dans les phases de reconversion agraire de certaines de ces sociétés. Bon, et c'est une effet. Voilà, je profite de votre allusion à cet atlas pour dire que voilà, il mobilise toute une génération de chercheuses et de chercheurs travaillant sur l'histoire de l'Africain.
On y voit une carte de l'Afrique au XIXe siècle où on voit que la quasi-totalité de l'Afrique est occupée par des États et des territoires toujours indépendants, et les explorateurs occidentaux sont obligés de se déguiser, de participer à des caravanes de marchands, de demander autorisation et protection à ces États pour avancer dans le continent.
Oui, l'Afrique au XIXe siècle, jusqu'au XIXe siècle, est une Afrique largement indépendante. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'au moment où les pouvoirs européens se partagent le continent, l'Afrique est constituée de formations politiques indépendante et ou de sociétés pas forcément organisées en, de façon hiérarchique, mais en tout cas il existe partout en Afrique des royaumes, des empires, des sociétés diversement organisées qui sont indépendantes.
Jusqu'à ce que la colonisation progresse. On entendait un écho, c'était la voix de Bismarck, aménagée par Mémoire d'un continent de la conférence de Berlin de 1885 en ouverture de l'émission. Alors la voici maintenant qui se déploie dans sa grandeur. Il s'agit d'une conférence plutôt que de partage, de préparation au partage futur. Bismarck de Rochef.
Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Le développement naturel du commerce en Afrique fait naître le désir bien légitime d'ouvrir à la civilisation des territoires inoccupés et inexplorés à l'heure qu'il est. Le programme de la conférence s'établit donc comme suit. Premièrement, la liberté du commerce dans le bassin du Congo et de ses embouchures. Deuxièmement, la liberté de circulation sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger. Troisièmement, les conditions de prise de possession de nouvelles terres.
Les conditions de prise de possession de nouvelles terres par des conquêtes, évidemment. Ce qui est quand même troublant, puisque vous aimez toujours mettre en rapport les histoires des différents continents, les unes par rapport aux autres, c'est que au moment où les conquêtes européennes en Afrique se multiplient, les émigrés partis d'Europe sont innombrables. Ils ne vont pas en Afrique.
Non, mais il est tout à fait exact que longtemps, l'Europe, en réalité, tourne le dos à l'Afrique et que le processus d'exploitation de l'Afrique par la traite esclavagiste d'abord et ensuite par la colonisation ne s'accompagne pas d'une connaissance de l'intérieur ou d'émigration européenne en direction de l'Afrique. La colonisation est un phénomène, en Afrique, est un phénomène très tardif par rapport aux autres colonisations, ce qu'on appelle les premières colonisations, est un phénomène très tardif.
Cependant, vous dites, mes connaissances, il y a quand même, parmi ceux qui s'installent, même s'ils ne sont pas très nombreux, des gens qui sont extrêmement curieux. Alors c'est un leitmotiv chez vous. Le colonialisme cultive la nostalgie de ce qu'il détruit. La bibliothèque coloniale documente et détruit en même temps.
Oui, l'expression de bibliothèque coloniale, je l'emprunte à un philosophe congolais qui s'appelle Vumbi Yoka Mudimbe, qui a employé cette expression très très juste, voilà, pour dire que la colonisation produit en même temps des savoirs qui continuent à être les savoirs sur lesquels on s'appuie pour faire l'histoire de l'Afrique. Mais il est vrai que j'aime beaucoup insister sur ce fait-là, parce qu'il y a beaucoup de débats dans notre société sur les bilans positifs ou négatifs de la colonisation. Je crois qu'il faut être tout à fait clair. C'est un système de prédation qui produit en même temps de la connaissance. Et cette ambivalence, cette dualité du rapport à l'Afrique, il faut la garder en mémoire.
Programmation musicale, responsabilité, François-Xavier Fauvel, votre choix. Parce que maintenant, on va parler de décolonisation. Comment faire l'histoire de l'Afrique en la décolonisant? Mais
alors j'ai choisi là une chanson très connue de Bob Marley, voilà, sur qui s'appelle Redemption Song, la chanson de la délivrance, de la rédemption, qui évoque la réalité très très concrète de l'esclavage, de l'asservissement des gens en terre africaine et de leur vente à des marchands européens, et puis la nécessité encore un ou deux ou trois siècles plus tard de décoloniser les mémoires.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them are gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? All I ever have, redemption songs, these songs of freedom. Songs of freedom.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Dernier épisode de notre série sur les mondes africains, décoloniser l'histoire de l'Afrique. C'était un événement, votre leçon inaugurale, au début du mois d'octobre. En 2006, au Burkina Faso, un grand historien africain, Joseph Kizerbo, meurt. Il est aussi président de l'Assemblée nationale. Un cortège d'un kilomètre de long part de Ouagadougou, la capitale, pour rejoindre son village. Thomas, c'est dire qu'il est un écrivain national, que tous les Burkinabés le reconnaissent comme un personnage d'une extrême importance. Une extrême importance qui s'était dessinée bien avant, puisque dès 1972, Joseph Kizerbo, diplômé comme il le fallait de l'université française, un peu comme Léopold Senghor, avait fondé une association des historiens africains. Mémoire d'un continent, Bokolo.
Nous allons consacrer notre émission « Mémoire d'un continent » à deux événements de l'actualité. Deux événements qui ont une importance historique. D'abord, la création de la première association des historiens africains à l'issue du congrès des historiens africains tenu à Dakar les 28, 29 et 30 décembre 1972. Ensuite, la publication du premier grand ouvrage d'histoire de l'Afrique noire écrit par un Africain francophone qui, en l'occurrence, est le président élu de l'Association des historiens africains. Je veux parler du professeur Joseph Kizerbo.
Nous avons décidé de donner comme nom à notre association, purement et simplement, le nom suivant, Association des historiens africains. Parce que nous pensons que tôt ou tard, et peut-être assez rapidement même, il nous faudra prendre des contacts avec nos collègues des pays africains anglophones afin de créer à terme une association africaine ou panafricaine des historiens.
Je vous invite à écouter les résolutions qui ont été prises à l'issue de ce congrès.
Le congrès constitutif de l'Association des historiens africains recommande aux États africains d'accorder à la recherche scientifique en général et à la recherche historique en particulier la place qui lui revient dans le développement national, de créer un statut du chercheur africain qui permettrait à l'enseignant qui a vocation de chercheur de poursuivre ses recherches dans les meilleures conditions, de réviser les accords culturels conclus avec les anciennes métropoles, en particulier sur le plan de la collation des grades universitaires et en ce qu'ils ont de préjudiciable au développement de la recherche.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté africain depuis un demi-siècle, cette création d'association, la parution sous l'égide de l'UNESCO de l'histoire de l'Afrique de Kizerbo?
Il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, c'est un paradoxe, il y a aujourd'hui beaucoup moins, il y a aujourd'hui planétairement, beaucoup moins de spécialistes de l'histoire de l'Afrique qu'il y en avait dans les années 60-70. Donc, juste après les indépendances, il y a eu une espèce d'engouement, voilà, et il y a eu beaucoup d'historiens, une espèce d'élan a été pris. Puis cet élan est très très vite retombé. Quand on fait le bilan pays par pays, région par région, etc., on est bien obligé de constater qu'aujourd'hui, nous sommes moins nombreux, nous autres historiens et historiennes de l'Afrique, nous sommes moins nombreux qu'il y a un demi-siècle. Et puis je suis très content d'avoir entendu cette archive parce que elle reste finalement d'une très très grande actualité, c'est-à-dire que la nécessité d'un réemparement de l'histoire de l'Afrique par les historiens, historiennes de l'Afrique, on pourrait parler aussi des archéologues, etc., reste le même aujourd'hui, c'est-à-dire que la conversation internationale qu'est par définition la recherche reste toujours très très déséquilibrée en défaveur des collègues africains. Prenons deux exemples très très simples. Les centres de ressources, c'est-à-dire là où sont les ouvrages fondamentaux avec les sources en arabe, les sources en gaise, les sources en langue européenne. Bah, ces centres de ressources sont dans le monde du Nord, sont en Europe et sont aux États-Unis. Même les grandes collections de manuscrits éthiopiens sont d'abord accessibles dans les bibliothèques du Nord plutôt qu'en Éthiopie même. Puis prenons l'exemple de l'archéologie. L'archéologie qui est une discipline qui coûte cher. Quelles institutions aujourd'hui sur Terre ont les moyens d'investir dans des programmes durables, des programmes de 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec ce que ça signifie de logistique lourde, d'équipement parfois coûteux? Ces moyens appartiennent principalement, là aussi, aux pays du Nord et pas aux pays du Sud. Donc on constate toujours 50 ans après cette création d'association. Il y a toujours ce décalage très très fort dont souffrent principalement nos collègues d'Africains.
Vous dites que nous sommes moins nombreux, les historiens ou les archéologues de l'Afrique. Vous dites ça parce que vous voyez les choses du point de vue français. Mais le centre de gravité s'est un peu déplacé vers le monde anglo-saxon et en particulier américain.
Alors le centre de gravité s'est considérablement éclaté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de centre de gravité, il y a des centres de gravité un petit peu partout. La géographie de la recherche a considérablement changé, elle se fait depuis différents endroits qui sont, il y a des pôles dans plusieurs endroits, il y a des pôles d'archéologie à plusieurs endroits en Afrique, à Johannesburg, à Ibadan, au Nigeria, au Kenya et en Tanzanie. Il y a des pôles de philologie, ici ou là. Il y a des pôles à Birmingham, à Paris, à Toulouse, aux États-Unis, à plusieurs endroits. Donc la géographie s'est complètement éclatée. En même temps, la langue de communication de cette recherche, là je parle principalement de l'histoire ancienne de l'Afrique, tend à devenir de plus en plus l'anglais comme seule langue véhiculaire de la recherche. Et même si les grandes réunions du milieu de la recherche peuvent se faire tantôt en Amérique du Nord, tantôt en Afrique, tantôt en Europe, voilà, globalement il s'opère une espèce d'homogénéisation de la langue de travail. Donc c'est une géographie dont on ne peut pas dire qu'elle a un centre de gravité unique du côté américain. Ce serait faux de le dire, mais néanmoins, il y a une réalité de la géographie de la recherche aujourd'hui.
Mais alors cette diffraction, ça évite la menace que vous craignez, nationalisme, afrocentrisme, entrepreneuriat de mémoire mise aux enchères, avec, comment dire, les plus radicaux des nationalistes, les gagnants.
Disons, je crois que nos sociétés contemporaines souffrent d'une pénurie d'histoire africaine. En d'autres termes, l'histoire africaine n'est pas suffisamment présente. Elle n'est pas suffisamment présente dans nos mémoires de sociétés contemporaines. C'est vrai en particulier en Europe. Elle n'est pas suffisamment présente dans les manuels scolaires. Elle n'est pas suffisamment présente. Elle n'est donc pas suffisamment mobilisable par les gens que ça intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce vide, des choses peuvent s'engouffrer. Et des choses s'engouffrent. Bon, ça peut être des idéologies afrocentristes, consistant à meubler du vide avec du mythe, avec l'idée que tout ce qui est intéressant en Afrique viendrait d'Égypte, par exemple. Ça peut consister aussi à meubler ce vide avec du déni, le déni d'histoire qu'on rencontre assez fréquemment dans nos sociétés occidentales. Et ce déficit d'histoire de l'Afrique se meuble de cette façon-là et crée des espèces de compétitions de mémoire. C'est l'une des réalités à laquelle nous autres, historiennes et historiens de l'Afrique, faisons face. C'est-à-dire qu'on est très souvent amené à répondre à ce genre d'interrogations, mis en demeure de se positionner par rapport à tel ou tel supposé savoir, etc. Bon.
Vous avez consacré un petit livre chez Verdier à ce thème, ça s'intitule donc « La mémoire aux enchères ». Mais qui sont ces entrepreneurs de mémoire que vous ne nommez peut-être pas explicitement, mais qui vous paraissent dangereux parce qu'ils exploitent une demande sociale ?
Oui, il existe en France en particulier, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique, voilà, des discours afrocentristes de différents types qui irrigue la culture populaire, et qui consiste à affirmer de faux savoirs, tout simplement. Bon, et donc j'ai pointé ça dans ce petit livre que vous venez de mentionner. Ça crée tout simplement, je crois, une responsabilité, voilà, qui est de rendre les savoirs disponibles. Voilà, j'insiste beaucoup sur ça, et je suis pas le seul à le faire. Hein, beaucoup d'autres historiens se coltinent, si je puis dire, ce travail-là, de rendre les savoirs disponibles de différentes façons. Voilà, bah, faire des livres, ça en fait partie, et donner des cours au Collège de France aussi.
Juste une question qui va vous être posée pendant les 20 ans que vous allez passer au Collège de France. François-Xavier Fauvel, vous avez cité les centres de gravité divers des recherches historiennes. Il y a combien de musées qui se portent bien en Afrique ? Emmanuel Pierra, faut-il rendre des œuvres d'art à l'Afrique ? C'est un nouveau livre qu'il signe. Dit, il se compte sur les doigts d'une main. Et dans ces conditions, il faut être prudent en matière de restitution.
Alors moi, je dirais pas ça du tout. Je prendrais le même parti que Bénédicte Savoie et Felwine Sarr, c'est-à-dire
dans un rapport qui a été rendu récemment.
Voilà, exactement, et qui ont travaillé. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils donnaient leur point de vue dans deux entrefilets. C'est qu'ils ont véritablement travaillé, ils ont véritablement interrogé, ils ont consulté des dizaines et des dizaines de personnes, historiens, archéologues, responsables de musées, voilà. Bon, et ils ont produit un rapport qui recommande la restitution. restitution par la France d'objets à différents pays africains. L'argument consistant à dire qu'il n'y a pas de musée en Afrique, ou en tout cas pas de musée digne de ce nom, ou qu'il n'y aurait pas d'intérêt pour la chose patrimoniale ou pour la chose historique dans la classe moyenne africaine, est un faux argument, et rien ne nous empêche du reste, même si on devait croire ça, d'aider nos partenaires africains à constituer, par exemple, des musées, à former des gens en muséographie, etc. L'importance là, c'est quoi? C'est de rendre à des sociétés africaines qui nous sont coprésentes et qui nous sont amies, de rendre des objets qui leur ont été pris, et en même temps que ces objets, de rendre des connaissances, et là aussi de les rendre disponibles.
Votre leçon inaugurale, cet événement, s'est terminé par l'évocation d'un événement d'une plus grande ampleur. C'était le discours de Mandela au moment de son investiture. Chez Alma, d'ailleurs, vous avez publié un recueil de discours de Mandela. Nous sommes en 1994.
Majesté.
Your Royal Highnesses.
Altesse.
Distinguished guests.
Invités distingués.
Comrades and friends.
Camarades et amis.
Today, all us two,
aujourd'hui, nous tous,
by our presence here,
par notre présence ici,
and by our celebrations in other parts of our country and the world,
et par nos célébrations dans d'autres régions de notre pays et du monde,
confer glory,
nous conférons gloire
and hope to newborn liberty,
et espoir à une liberté tout juste née.
Out of the experience of an extraordinary human disaster,
de l'expérience d'un désastre humain inouï
that lasted too long,
qui a duré beaucoup trop longtemps,
must be born a society of which all humanity will be proud,
doit naître une société dont toute l'humanité sera fière.
Et il conclura un peu plus loin que le travail, le pain et le sel soient à la disposition de tous.
Oui, exceptionnel discours, très très grand discours que j'aime beaucoup et qui nous rappelle que en Afrique du Sud, la démocratie s'est en quelque sorte inventée sous nos yeux. Et j'ai évidemment rien contre la Révolution française, la Révolution américaine ou la démocratie grecque, mais il est quand même
Mandela,
utile.
Il respecte d'ailleurs les royautés traditionnelles. Majesté, c'est pas la reine Elisabeth comme je le croyais
ce sont,
en occidental.
Non, ce sont les souverains traditionnels de royaumes en Afrique du Sud, même invités de la sorte à cohabiter avec la nouvelle démocratie sud-africaine. Donc je trouve intéressant qu'une société africaine, voilà, en Afrique, est inventé sous nos yeux à partir d'un chaos social qu'était l'apartheid, est inventé sous nos yeux une démocratie et réincorporé sous nos yeux des membres séparés d'un même corps social dans une société. Et l'un de ces rituels d'incorporation, voilà, c'est ce discours de Mandela le 10 mai 1994.
Et qui invite à une conversation. L'histoire, c'est une conversation.
Oui, je crois que c'est effectivement une conversation. J'avoue ma dette intellectuelle à un grand philosophe, Ali Ben Makhlouf, voilà, qui pense cette question de conversation, qui non seulement et qui fait dialoguer les uns avec les autres des philosophes de différentes cultures. Je crois que l'histoire est une conversation qui non seulement fait dialoguer des historiennes et des historiens entre eux, et puis des gens d'autres disciplines, mais qui consiste aussi à faire dialoguer entre eux les ancêtres que nous allons dénicher dans le passé. C'est ça, je crois, la véritable magie de l'histoire, c'est que d'aller faire dialoguer ensemble des ancêtres.
Merci à vous, François-Xavier Fauvel, de nous avoir accompagnés toute cette semaine, votre leçon inaugurale, vos cours qui commencent le 30 octobre sur le site du Collège de France, comme cette série d'émissions sur le site de France Inter. Rémi Sistiaga à la technique, Étienne Bertin à la réalisation, Franck Olivard, Frédéric Martin et Linka Negulesco pour la préparation.